Vous écoutez On lit pour vous.
Cet ange partit rejoindre son Créateur. Un texte de Boucar Diouf, paru le 4 octobre 2025 dans la presse. Mercredi le 1er octobre 2025, cette brillante femme qui a fait avancer la primatologie, Jane Goodall, nous a quittés. Goodall faisait partie des trois anges de Louis Leakey. Ce grand paléoprimatologue et paléoanthropologue britannique a eu dans sa carrière cette idée de génie qui a fait naître Goodall, la scientifique. C'est donc lui, le créateur que j'évoque dans mon titre. À une époque où la biologie était très majoritairement masculine, il a pensé que donner l'occasion à de jeunes femmes passionnées, mais sans parcours scientifique classique, d'étudier les grands singes, pouvait amener des idées novatrices dans la recherche en primatologie. Alors Louis Leakey a choisi trois femmes qu'une certaine presse baptisera plus tard « les anges de Leakey ». Le parrain trouvera à ses protégés du financement et leur facilitera les démarches administratives nécessaires à leur mission. De ces trois élus, la Britannique Jane Goodall est la plus connue. Elle quittera Londres en 1960 pour le parc national de Gombe, en compagnie, en Tanzanie. La deuxième candidate, Diane Fossé, une Américaine née à San Francisco, se rendra dans les montagnes du Rwanda en 1967 pour consacrer sa vie aux gorilles. Elle y trouvera tragiquement la mort en 1985 dans des circonstances encore nébuleuses. Le troisième mousquetaire du trio est Biruté Caldigas, une Canadienne qui se rendra à Bornéo en 1971 pour y étudier l'orang-outan. Louis Leakey avait lancé ce projet d'intégration pour bousculer les paradigmes et briser le plafond de verre dans la recherche en primatologie, qui était presque entièrement menée par des hommes. Je vois ici un avant-gardiste programme d'équité, diversité et inclusion qui a eu des impacts scientifiques hautement significatifs. Pour se distancier de ses prédécesseurs, Jane Goodall a commencé par donner des noms aux chimpanzés qu'elle étudiait, là où la traditionnelle façon de faire leur attribuait des numéros. Elle s'approchait avec tellement de délicatesse et de patience des chimpanzés sauvages que ces derniers finissaient presque par oublier sa présence. Évidemment, comme toutes les pionnières qui ont bousculé un certain ordre patriarcal, Jane Goodall a aussi affronté un vent de face. À cause de son absence de formation doctorale, on l'a qualifiée de secrétaire passionnée par la nature. On a aussi snobé son travail et dit de ses méthodes qu'elles étaient trop subjectives. Voulant la réduire à sa seule apparence physique, certains médias et certains confrères la surnommeront « la jolie blonde de la jungle ». Une façon d'insinuer qu'elle était plus photogénique que scientifique. Le temps fera pourtant taire ses détracteurs, car en plus de terminer son doctorat, Jane Goodall deviendra une des figures les plus dominantes de la primatologie. Elle nous apprendra beaucoup de nouvelles choses sur les chimpanzés. Par exemple, elle sera la première à rapporter que les chimpanzés façonnent et utilisent des outils. Aussi banal que cela puisse paraître aujourd'hui, cette découverte avait provoqué des secousses sismiques. Pourquoi? À cette époque, il était coutume de présenter l'humain comme cette espèce singulière qui n'avait rien à voir avec le reste de la biodiversité. Pour ce faire, il fallait lui trouver des spécificités, des caractéristiques sans rien d'équivalent ou de comparable dans le reste du vivant. L'intelligence, le langage, le rire, la maîtrise et la domestication du feu, la conscience de soi, la conscience de la mort étaient régulièrement appelés en renfort pour justifier l'unicité de notre espèce. Ces supposés particularismes servaient de murailles qu'une certaine science élevait très haut pour mieux éloigner notre monde de celui des bêtes. Pourtant, aujourd'hui, à l'exception de la domestication du feu, toutes ces supposées spécificités humaines sont tombées dans la fosse aux fausses conceptions, car on les retrouve sous différentes formes dans le monde animal. Pour mesurer l'ampleur de la désillusion, revenons à l'usage d'outils. Dans les années 1950, le consensus voulait que l'humain soit le seul animal à fabriquer et utiliser des outils. Puis, au début des années 1960, Jane Goodall rapporte de ses observations en Tanzanie que les chimpanzés façonnent et utilisent eux aussi des outils. Le primatologue américano-néerlandais Frans de Waal raconte que son directeur de thèse, John Van Hoof, était présent dans la salle de la Société zoologique de Londres en 1962 quand Jane Goodall est revenue d'Afrique pour remettre en cause le livre « Man, the Toolmaker », l'homme, le créateur d'outils, de l'anthropologue Kenneth Oakley. Le malaise était palpable. Pour ne pas généraliser, disons chez beaucoup de chercheurs, car il y avait aussi des scientifiques suffisamment ouverts pour applaudir sa découverte. Cependant, Solly Zuckerman, le secrétaire de l'institution, dit de Waal, a piqué une crise et lancé aux organisateurs qui a eu l'idée saugrenue d'inviter cet inconnu à une réunion de chercheurs. Le phallocrate décomplexé en voulait à ce qu'il appelait ces jeunes femmes séduisantes qui envahissaient la primatologie. Pas facile de voir les certitudes sur lesquelles repose sa carrière démolie publiquement. 50 ans plus tard, alors qu'elle fêtait ses 80 ans, Jane Goodall se disait encore traumatisée par cette violente exclusion dont elle a été victime. Pourtant, elle n'était pas la première à goûter à cette médecine. Avant elle, en 1961, Thelma Rowell avait publié dans la revue de la même Société zoologique de Londres un article portant sur les macaques rhésus. Pour ne pas se faire discriminer, elle avait signé T. Rowell. Ne sachant pas qu'elle était une femme, la prestigieuse institution londonienne l'a invitée à donner une conférence. Lorsqu'elle est entrée dans la salle, dit Franz Deval, le malaise était palpable. La légende raconte que les membres de la prestigieuse institution, qui avaient l'habitude de dîner avec leur invité, ne voulaient pas manger avec elle à la même table. Ils lui ont demandé de dîner derrière un rideau et elle a refusé, ajoute Deval. Depuis, les choses ont évolué. Un changement qu'on ne doit pas seulement à Goodall. À côté d'elle, bien loin des caméras, d'autres remarquables femmes, biologistes et féministes, qui ont fait avancer nos connaissances sur les primates et les singes. Permettez-moi de citer, outre Thelma Rowell, Barbara Smuts, Linda Fedigan, Frances Burton, Charlie Strom, Sarah Blaffer Erdy, Jeanne Altman, Mary Jane West Eberhard, Patricia Gowaty, Alison Jolly, etc. Une année après la conférence de Thelma Rowell, Jane Goodall trouvera la même résistance dans cette fosse aux misogynes, avec son histoire d'outils et de chimpanzés. La preuve par l'image finira pourtant par faire plier les plus sceptiques. Depuis, le temps a fait son œuvre et cette certitude a été complètement balayée. On sait maintenant que les chimpanzés utilisent une trentaine d'outils différents. Selon leur culture et leur région africaine d'origine, ils façonnent des sortes de lances en bois pour chasser le galago, utilisent des pierres pour casser des noix, des bâtons pour pêcher des termites, des brindilles pour se curer les dents, etc. Si ces découvertes ont heurté certaines grosses têtes, c'est parce qu'on a longtemps regardé la création comme un arbre dont le sommet est occupé par l'humanité. Pourtant, il n'existe pas d'être vivant plus achevé que d'autres dans la biodiversité. Sur les routes de l'évolution du vivant, la sélection naturelle a aménagé des bifurcations qui ont abouti à d'autres vies aussi parachevées et adaptées à leur environnement que notre espèce. Autrement dit, on ne peut pas élever le cerveau humain en modèle pour parler de l'intelligence des chimpanzés ou des corbeaux. D'ailleurs, les chimpanzés battent largement les humains dans les jeux informatiques de mémoire spatiale très populaires sur la toile. Pour cause, la mémoire spatiale est d'une importance capitale lorsqu'on est un primate endémique des forêts tropicales. Elle sert à cartographier le territoire et les ressources alimentaires qu'on y trouve. Dans son ouvrage coécrit avec Douglas Abrams et intitulé « Le livre de l'espoir », Jane Goodall disait ceci. « Je préfère le mot « intellect » au mot « intelligence ». Un animal intelligent ne détruit jamais sa maison. C'est à cause de ce prodigieux intellect que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation impossible. C'est lui qui a déréglé le monde où nous vivons. On pourrait presque dire que l'intellect humain a été la plus grande erreur de l'évolution, puisqu'il menace désormais l'ensemble du vivant sur la planète. Voilà peut-être pourquoi Goodall disait se sentir en famille avec ses chimpanzés, une famille d'adoption qu'elle nous a généreusement racontée. Il me vient ici à l'esprit l'histoire d'une matriarche qu'elle avait nommée Madame B. Cette dernière, la femelle la plus âgée d'un groupe qu'elle étudiait, était une aînée d'une grande bienveillance, et à la santé fragile. Malgré sa faiblesse physique, dit Goodall, les autres chimpanzés la traitaient avec respect et empathie. Alors qu'elle n'arrivait plus à grimper, sa fille et d'autres jeunes femelles descendaient des arbres avec des fruits pour les partager avec elle. Curieusement, ces dernières années, chaque fois que je voyais Jane Goodall à la télé, je ne pouvais m'empêcher de jumeler son histoire à celle de cette Madame B qu'elle aimait tant. Comme cette vieille femelle, Goodall était généreuse avec son savoir et avec la nature. En vieillissant, la planète l'a aussi énormément récompensée pour son engagement sans bornes au service de la biodiversité, surtout avec la fondation qui porte son nom. J'aimais cet ange qui est allé rejoindre Diane Fossé et Louis Leakey, son créateur. J'espère aussi qu'elle croisera le chemin de Solly Zuckerman pour lui annoncer qu'elle a reçu en 2004 le titre de Dame Commandeur de l'Empire britannique. C'était « Cet ange parti rejoindre son créateur ». Un texte de Boukhar Diouf, paru le 4 octobre 2025 dans la presse.
quand équité devient appartenance. Un recul déguisé de l'EDI. Un texte de Simon Blanchette, paru le 30 octobre 2025 dans La Conversation. Depuis 2024, la contestation des initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, EDI, a pris de l'ampleur en Amérique du Nord. Cette année, ce recul prend une nouvelle forme. Le remplacement du mot « équité » au profit de termes plus abstraits comme « appartenance » ou « communauté ». À l'Université de l'Alberta, par exemple, il n'y a plus de vice-provost à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. L'établissement dispose désormais d'un bureau de l'accès de la communauté et de l'appartenance. De même, la société Alberta Investment Management Corporation, AIMCO, a éliminé son poste de direction consacré à l'EDI lors d'une restructuration. Un porte-parole a soutenu que le départ de la personne responsable du programme officiel d'EDI n'a en rien diminué l'engagement ferme d'AIMCO envers ses principes. Permettez-moi d'en douter. Un virage similaire est en cours à l'Université de Lethbridge, qui a créé en décembre 2024 un bureau de l'accessibilité, de l'appartenance et de la communauté. Si la langue évolue naturellement, ce changement ressemble davantage à un repli déguisé qu'à un véritable progrès, car il manque l'engagement délibéré nécessaire à l'équité. Un repli déguisé en progrès. Les appels à rebaptiser les démarches d'EDI existent depuis des années et sont légitimes, y compris au sein du milieu lui-même. Mais les changements actuels vers l'appartenance manquent souvent de véritables engagements communautaires et de la participation des parties concernées. Les efforts actuels de rebranding relèvent davantage de l'apaisement que du progrès. Ce sont des gestes réactifs dictés par des pressions externes plutôt que des réponses aux besoins et aux demandes des communautés les plus concernées. Autrefois reconnu comme essentiel pour s'attaquer à la discrimination systémique, le terme « équité » est devenu aujourd'hui un paratonnerre politique. Certaines institutions subissent désormais des pressions politiques, d'actionnaires ou de donateurs qui présentent les initiatives d'EDI comme clivantes ou idéologiquement extrêmes, les poussant à s'en distancier. Dans le monde des affaires, la tendance est frappante. Les mentions d'EDI dans les dépôts réglementaires des sociétés du S&P 500 ont chuté de 70 % depuis 2022, remplacées par des termes plus consensuels comme « appartenance » et « culture inclusive ». Ce changement permet aux organisations d'échapper à leurs responsabilités, de masquer les inégalités et de remplacer les termes d'équité mesurable par des platitudes vagues. Pourquoi est-ce important? En adoucissant les termes utilisés, les organisations s'assurent un moyen socialement acceptable de se soustraire à la difficile mission qu'est l'équité. Comme si elles avaient dépassé l'équité alors qu'elles n'ont jamais fait le travail nécessaire. C'est en quelque sorte une illusion. Supprimer l'équité du langage organisationnel a des conséquences tangibles. Tout d'abord, cela compromet l'imputabilité. Les cadres d'équité efficaces créent des objectifs mesurables et vérifiables. Des termes tels que « appartenance » sont plus difficiles à définir et plus faciles à abandonner. Ils permettent aux organisations de prétendre s'engager en faveur de l'inclusion sans avoir à fournir les efforts nécessaires à un réel changement systémique. Ensuite, cela risque de laisser des gens de côté. L'équité se concentre sur ceux qui font face à de vrais obstacles structurels. Femmes, personnes noires et racisées, autochtones, communautés DELGBTQI+, et personnes en situation de handicap. Si ce terme disparaît, ces groupes risquent de perdre toute visibilité dans les politiques, le financement et la reddition de comptes. Enfin, les organisations elles-mêmes s'exposent à des risques. Les reculs en matière d'EDI nuisent au moral, à la rétention, à l'innovation et à la performance et peuvent même accroître le risque juridique. Un sondage de 2025 du Meltzer Center for Diversity, Inclusion and Belonging, NYU, révèle que 80 % des dirigeants estiment que la réduction des efforts en équité augmente les risques réputationnels et juridiques. Il fait aussi état d'un large consensus selon lequel les initiatives d'EDI améliorent la performance financière des entreprises. Le mythe de la méritocratie. Une justification fréquente pour abandonner le mot « équité » est le souhait de revenir à la méritocratie. La méritocratie repose sur l'idée que les individus devraient être récompensés selon leurs talents et leurs efforts. Mais la méritocratie suppose l'égalité des chances et occulte le fait que le mérite est une construction sociale qui dépend du contexte. Elle ignore que des barrières inégales, comme l'accès à l'éducation et au réseau, influencent la réussite individuelle, et ce, outre les réalisations de la personne. La méritocratie suppose également que la diversité est privilégiée au détriment des qualifications, ce qui n'est pas le cas. Nous pouvons et nous devons nous concentrer à la fois sur les compétences et sur l'inclusion. Les travaux du professeur Emilio G. Castilla du Massachusetts Institute of Technology, MIT, ont montré que les organisations se réclamant de la méritocratie renforcent souvent les biais. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la méritocratie. Par exemple, dans une étude réalisée auprès de 445 participants ayant une expérience en gestion, les chercheurs ont demandé aux participants de prendre des décisions concernant les primes, les promotions et les licenciements d'employés fictifs. Lorsque la culture d'une organisation mettait l'accent sur la méritocratie, les hommes recevaient des primes plus élevées que les femmes ayant les mêmes qualifications. À l'inverse, lorsque la culture d'entreprise mettait plutôt l'accent sur le pouvoir discrétionnaire des dirigeants, le biais s'inversait en faveur des femmes. Cela s'expliquait vraisemblablement par le fait que l'énoncé signalait un biais de genre potentiel déclenchant une surcorrection. Vous écoutez « Quand équité devient appartenance », un recul déguisé de l'EDI. Dans un troisième scénario, où ni la méritocratie ni la discrétion managériale n'étaient mises de l'avant, il n'y avait pas de différence significative dans les primes accordées. Bien que le dernier scénario semble prometteur, la plupart des environnements de travail privilégient la méritocratie, consciemment ou non. La rémunération basée sur le mérite ou la performance demeure la norme dans la plupart des organisations, ce qui signifie que le premier scénario est le plus fréquent. Sans transparence, le discours sur qui mérite une promotion, un bonus, a tendance à renforcer les inégalités. Le népotisme, les avantages liés au réseau et la visibilité sélective comblent souvent le vide lorsque les cadres d'équité sont abandonnés. Les réseaux et la visibilité comptent, mais ils ne doivent pas être confondus avec le mérite. Ironiquement, les critiques les plus virulentes des initiatives en matière d'équité demeurent muelles lorsque ce sont les privilèges hérités ou les relations privilégiées qui déterminent qui accède à des postes de direction. Que peuvent faire les organisations? Alors que certaines institutions reculent sur leurs engagements en matière d'EDI, d'autres au Canada et en Europe maintiennent le cap en intégrant l'équité à leur stratégie, à leur leadership et à leur cadre de performance. Pour faire progresser l'équité dans le contexte actuel, il faut à la fois une stratégie et une mobilisation continue. Voici par où les organisations peuvent commencer. 1. Établir et intégrer des objectifs explicites et mesurables en matière d'équité alignés sur la stratégie de leur entreprise. 2. Améliorer la transparence des données en collectant et en partageant publiquement des informations désagrégées sur le recrutement, la promotion, l'équité salariale, le taux de rotation du personnel et l'expérience des employés. 3. Donner un véritable pouvoir décisionnel aux voix issues de la diversité dans l'élaboration des politiques et des initiatives. Les groupes ressources d'employés constituent un excellent point de départ. 4. Tenir les leaders imputables en les formant à promouvoir l'équité et en liant leurs incitatifs à des résultats concrets en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. 5. Communiquer de manière transparente et authentique sur les impacts de l'EDI en partageant des témoignages et des indicateurs qui montrent comment les efforts en matière d'équité ont amélioré les performances de l'organisation. Ces solutions fonctionnent déjà. Dans ma pratique de consultant, j'ai accompagné des organisations qui progressent en bâtissant la confiance, en dynamisant leurs équipes et en stimulant l'innovation. Au final, elles sont plus performantes et plus résilientes. L'argument économique pour l'équité, la diversité et l'inclusion est bien établi. L'EDI stimule la performance, soutient la croissance et constitue un impératif de leadership. Dans le climat politique actuel, il est crucial de rester concentré sur les résultats plutôt que de se laisser entraîner par un discours qui présente l'équité comme inutile ou clivante. La voie à suivre. Rebaptiser l'équité en appartenance ne fait pas avancer la justice, surtout en l'absence d'une définition partagée de ce que signifie réellement appartenance. Cela nie poliment la nécessité de démanteler de véritables barrières systémiques. Pour les personnes qui font face à ces barrières, cela sonne comme une promesse creuse. Personne ne choisit sa race, son sexe, son milieu socio-économique, son orientation sexuelle, ni de vivre avec un handicap ou les séquelles durables du service militaire, par exemple, un trouble de stress post-traumatique. En revanche, les institutions peuvent choisir de s'attaquer aux inégalités liées à ces expériences et de démanteler les obstacles auxquels les individus sont confrontés. Ce moment invite également à une réflexion honnête au sein même du secteur de l'EDI. Certaines initiatives ont dépassé les limites ou perdu de vue leur objectif, ce qui a contribué au contre-coup actuel. Reconnaître ouvertement ces faux pas fait partie du travail de reconstruction de la crédibilité de l'EDI. L'essence de l'équité consiste à assurer la dignité et une chance réelle et égale de réussir. Abandonner le travail en faveur de l'équité ou l'édulcorer au point de le rendre insignifiant, ne peut pas être une solution. Pour progresser, il est nécessaire de réduire la polarisation, d'ouvrir le dialogue et de mieux coordonner les actions afin que chaque personne ait une chance équitable de s'épanouir et de réussir. C'était « Quand équité devient appartenance », un recul déguisé de l'EDI. Un texte de Simon Blanchette, paru le 30 octobre 2025 dans La Conversation.
Quatre nouveautés à Montréal. Un texte de Martine Letarte, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse. Que ce soit dans le domaine de la santé, des affaires, de l'environnement ou même de l'art, le monde change, nos préoccupations et nos besoins également. Les programmes universitaires se développent et s'ajustent en conséquence. Voici quatre nouveautés dans quatre universités montréalaises. S'ajuster à l'industrie musicale. Le baccalauréat en musique de l'Université Concordia s'adapte aux changements de l'industrie. De nouveaux cours sont offerts en production musicale qui abordent les aspects techniques de l'enregistrement, du mixage et des stations audio-numériques. Un nouveau cours a aussi été créé en gestion de carrière et promotion. L'automne prochain, on ajoutera à la spécialisation en composition le volet « production musicale ». Les personnes qui veulent s'y inscrire peuvent désormais soumettre un portfolio de chansons ou de musique de films, ainsi que de jeux vidéo. Ces types d'œuvres seront également intégrés dans des cours théoriques et d'histoire, tout comme la musique pop et les musiques du monde. Troubles neurocognitifs majeurs. Le micro-programme de deuxième cycle sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, SCPD, associés à des troubles neurocognitifs majeurs comme l'Alzheimer, est maintenant offert à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Cette spécialisation vise à combler les grands besoins de personnel en première ligne pour les aînés dans les CHSLD, les CLSC et les soins de maintien à domicile, alors que le quart de la population québécoise sera âgée de 65 ans et plus en 2031. Plus de 75 % des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur présenteront des SCPD, qui permettent d'ailleurs de prédire la rapidité d'évolution de la maladie. Le microprogramme a été créé pour les personnes ayant un baccalauréat dans un domaine de la santé et des services sociaux ou une formation connexe. Population et santé mondiale. Le nouveau baccalauréat en population et santé mondiale, offert par l'Université McGill, aborde de grands enjeux comme l'accès aux soins de santé, la préparation aux pandémies et la résilience au changement climatique. En reconnaissant l'impact des déterminants structurels et sociaux de la santé, il prépare les personnes à devenir des leaders dans la création de solutions équitables et efficaces sur le plan local et mondial. Le programme s'appuie sur les domaines interdisciplinaires de la santé publique et des sciences sociales. Il offre 5 concentrations: environnement et santé, culture, société et santé, régime alimentaire, mode de vie et parcours de vie, système, politique et gouvernement, ainsi qu'innovation et leadership. Sous la loupe de l'éthique. Le nouveau certificat de premier cycle proposé par l'Université de Montréal offre que l'éthique se glisse dans plusieurs sphères concrètes de nos vies. Par exemple, un cours se penche sur les différents défis éthiques soulevés par les applications de l'intelligence artificielle, comme la surveillance, la technologie persuasive, les biais algorithmiques et la prise de décision automatisée. Un autre porte sur les débats contemporains en éthique et en philosophie politique de l'environnement, comme la libération animale et l'écocentrisme, qui considèrent que tous les êtres vivants possèdent une valeur intrinsèque, qu'ils soient utiles ou non à l'homme. Votre curiosité pourrait aussi être piquée par le cours qui se penche sur le boulot, son lien avec l'épanouissement de soi, les théories post-travail et du travail doté de sens. C'était 4 nouveautés à Montréal. Un texte de Martine Letarte, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse.